Donc, je vous présente une communication qui s'intitule « Les stratégies d'ancrage et de mobilité spatiale chez les classes supérieures ». Être mobile, et notamment à l'échelle internationale, est vu comme un élément fondateur de la puissance des nouvelles classes dominantes, qui supplanterait d'anciennes logiques de notabilité et d'ancrage à l'échelle locale. Pourtant, des travaux comme le travail collectif d'Alberto Andreotti, Patrick Le Gallès et Francisco Moreno Fuentes, mais aussi le travail d'Anne-Catherine Wagner, montrent que le capital international ne se substitue pas aux autres formes de capitaux et qu'il se combine à un attachement et à un ancrage à l'échelle locale et nationale. De plus, ces stratégies de mobilité ne concernent pas de la même manière l'ensemble des fractions des classes supérieures. Et donc l'objet de la communication, c'est d'analyser comment les classes supérieures combinent des logiques d'ancrage et de mobilité et de montrer surtout quelles sont les ressources qu'elles en tirent. Je m'appuierai sur le travail de terrain que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse, qui est toujours en cours, et qui porte sur le rapport au logement et au quartier des classes supérieures et sur le maintien de l'entre-soi. Cette enquête est composée principalement d'entretiens avec des propriétaires de maisons situées dans les quartiers les plus aisés de deux communes de la première couronne de la banlieue parisienne, donc Rueil-Malmaison et Saint-Maur-des-Fossés. J'ai réalisé 30 entretiens dans chaque commune, qui ont duré en moyenne un peu moins de 2 heures, 1h55, et se sont déroulés dans la quasi-totalité des cas à domicile. Les ménages enquêtés disposent tous de relativement plus de capital économique que de capital culturel et scolaire. Les personnes de référence des ménages sont une large majorité des hauts cadres du secteur privé, des professions libérales ou encore des chefs d'entreprise. Dont les épouses, sont très souvent mères au foyer et ce sont principalement avec elles que se sont déroulés les entretiens. Il s'agira dans une première partie de revenir sur les pratiques de mobilité des classes supérieures, donc à la fois pour des raisons professionnelles et de loisirs, et de mettre en avant le rôle joué par les femmes. Ce sont en effet elles qui portent le poids de la mobilité en servant de variable d'ajustement à ces arrangements familiaux et en prenant en charge l'économie domestique et le soin apporté aux enfants. Ces pratiques de mobilité s'articulent à un ancrage à l'échelle locale dont les fractions de classe étudiées tirent des ressources qui peuvent s'apparenter à une forme de capital d'autochtonie dont on a beaucoup parlé ces deux jours et qui serait au service cette fois-ci des classes supérieures comme l'a théorisé notamment Sylvie Tissot. Donc, tout d'abord, les fractions de classe étudiées sont mobiles mais elles ne sont pas toutes aux mêmes échelles ni avec la même intensité. Il s'agira dans cette première partie d'étudier les pratiques de mobilité en montrant qu'elles se font principalement dans le cadre professionnel et dans le cadre du loisir et qu'elles sont permises grâce à l'engagement des femmes dans la gestion de l'économie domestique et parfois même grâce à leur désengagement de leur carrière professionnelle. La profession est l'une des principales raisons de la mobilité des classes supérieures qui s'effectue à la fois de manière quotidienne à l'échelle métropolitaine et de manière plus ponctuelle à l'échelle nationale et internationale, allant même parfois jusqu'à l'expatriation. Pour les personnes ayant un emploi, des déplacements quotidiens à l'échelle francilienne sont donc à prévoir. Et là, le choix de la localisation de la résidence principale joue un rôle dans ces mobilités. En effet, les quartiers étudiés ont souvent été choisis pour leur standing, pour leur tranquillité, ainsi que pour leur morphologie pavillonnaire et leur cadre plutôt vert. Mais en fait, cette localisation en banlieue implique souvent des trajets domicile-travail qui sont assez longs. C'est le cas, par exemple, de Cécile Lambert, qui vit à Rueil-Malmaison, qui est consultante à domicile, mariée à un directeur financier avec deux enfants. Je lui demande « Est-ce que votre mari travaille à la Défense ?» Elle me répond « Non, il travaille loin, il travaille près de Roissy. Ouais, il est courageux, de conduire ne le gêne pas, dans les bouchons. Enfin, le gêne, mais il s'en accommode. » Cet éloignement est renforcé par la faible appétence des cadres étudiés pour les transports en commun, alors que les deux communes étudiées sont desservies par le RER A. Donc, par exemple, Isabelle Fabre, qui est mère au foyer, mariée à un directeur financier avec trois enfants, me dit « Le RER A, c'est bien mignon, mais ça fonctionne, toujours pas très bien. C'est la ligne la plus saturée d'Europe, il y a quand même souvent des problèmes. Et vu les horaires de mon mari qui part à 7h le matin et qui rentre jamais avant 9h le soir, le RER, c'est pas cool. » Delphine Garnier, aussi femme au foyer, mariée à un directeur financier avec six enfants, me dit, elle, « Non, il aime pas trop le RER. Donc, c'est pas très écologique, mais il prend sa voiture. » Une grande majorité des personnes interrogées n'utilisent pas les transports en commun, ce qui peut être analysé comme un marqueur de l'éloignement des fractions de classe largement employées dans le secteur privé vis-à-vis des services publics. Cette mobilité francilienne, qui est coûteuse en temps et en énergie, est plus courante chez les hauts cadres du secteur privé et beaucoup plus rare chez les chefs d'entreprise et les professions libérales, puisqu'elles ont plus de choix pour décider de la localisation de leur activité et qu'elles font souvent le choix de la proximité. C'est le cas par exemple de Luc Jacob, qui est expert comptable, marié à une ancienne infirmière au foyer avec quatre enfants, qui s'est installé à son compte il y a plus de 20 ans et qui a d'abord mis son activité à son domicile, puis dans des locaux qui sont à 5 minutes à pied de chez lui. Ce choix a un impact sur son activité professionnelle, comme il va me l'expliquer, mais il lui procure également une qualité de vie exceptionnelle, selon sa femme. Donc il me dit « Bon, je suis installée donc en banlieue, c'est des clients qui ont sûrement moins de potentiel qu'à Paris, mais l'un dans l'autre, finalement, ça va, parce que c'est quand même 2 heures par jour de temps gagné. Je suis jamais malade, non mais c'est vrai, de prendre le métro tous les hivers, avant je me prenais un bon rhume, une bronchite. » En parallèle de ces déplacements au quotidien, les postes à responsabilité qui sont occupés par les hommes des ménages étudiés les amènent également à se déplacer très régulièrement pour leur travail, en France ou à l'étranger, et ce d'autant plus chez les fractions professionnelles des hauts cadres du secteur privé. Donc, les hauts cadres du secteur privé qui ont été rencontrés sont aussi nombreux à avoir connu une période d'expatriation de plusieurs années, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces expériences prolongées à l'étranger illustrent de la forte mobilité de ces fractions de classe et dotent les familles étudiées d'un capital international. Suite à l'expatriation, l'échelle internationale est inscrite pendant long terme dans les référentiels des ménages étudiés, comme le montre par exemple l'attrait pour les langues, l'étude des choix scolaires qui inclut des possibilités internationales ou encore le choix des sociabilités. Par exemple, Salomé Mercier, qui a été expatriée à Londres avec son mari, femme au foyer, mariée à un cadre dans la banque avec 3 enfants, me dit « J'aurais adoré repartir. Je pense que ça m'a beaucoup ouvert, en fait, parce que, bon, moi, j'étais quand même, pour moi, quand je suis partie du 7e arrondissement à Levallois, c'était déjà une grande étape. Pour ma mère, je partais quasiment en province. Et après, à l'école, je me suis liée avec plusieurs mamans d'amis de mes enfants, parce que, justement, elles venaient d'autres pays, et j'aime bien découvrir d'autres cultures. Je pense que c'est le fait d'avoir vécu à l'étranger, ça ouvre. » Donc, ce capital international est un atout distinctif très fort. Avoir vécu à l'étranger apporte une ouverture d'esprit à tous les membres de la famille qui en ressortent grandis de cette expérience migratoire. Dans ses discours sur les avantages de l'expatriation, les enfants sont particulièrement mis en scène, et notamment leur socialisation à des cadres scolaires vus comme moins fermés et moins rigides que le système français. Et ça, Claire Galvaux l'a bien montré dans sa communication hier. Donc, ces mobilités professionnelles qui s'organisent à l'échelle locale, nationale et internationale sont le pendant d'emplois à grande responsabilité qui sont fortement rémunérés. Elles apportent donc des ressources financières aux ménages et sont un élément constitutif de l'appartenance aux classes supérieures. Ces fortes mobilités professionnelles entrent en contradiction avec le projet familial qui occupe une place centrale dans les arrangements familiaux des fractions de classe étudiées, et ce d'autant plus qu'elles sont catholiques et pratiquantes. Donc ce projet familial, il se définit par le double objectif d'une part d'une grande fratrie, en moyenne 3 enfants et jusqu'à 6 enfants par femme dans mon groupe d'enquêté, et aussi d'un investissement fort dans leur éducation. Mobilité et projet familial ne sont compatibles que grâce à l'engagement des femmes au sein de la maisonnée et de leur prise en charge des déplacements des enfants et de la gestion de l'économie domestique. Donc les fractions de classe étudiées sont assez différentialistes, c'est-à-dire que contrairement à leurs homologues qui sont davantage dotés en capital culturel et en capital scolaire, il n'y a pas de volonté affichée d'aller vers une meilleure répartition du travail domestique. Ce sont principalement les mères qui s'occupent du soin apporté aux enfants, qui s'engagent en tant que parents d'élèves, font le taxi pour les déplacements scolaires et extrascolaires. Ce sont également elles qui s'occupent des courses, de l'intendance du ménage, bien que tous les ménagers interrogés aient au moins une femme de ménage. Étant donné leur appartenance de classe, qui leur garantit donc des conditions matérielles d'existence avantageuses, et étant donné la non-nécessité pour elles, pour le ménage, de la biactivité pour se maintenir dans la position sociale, contrairement aux ménages des classes moyennes, beaucoup de femmes font le choix d'arrêter de travailler à l'extérieur. Un tiers des femmes des ménages enquêtés sont des femmes au foyer, auxquelles s'ajoutent une dizaine de femmes qui travaillent à domicile ou qui travaillent à temps partiel dans l'entreprise du mari. Et donc elles représentent en tout plus de la moitié des femmes des ménages enquêtés. Ces expériences ne sont pas sans rapport avec celles des femmes actives à plein temps à l'extérieur, qui prennent quand même en charge le second shift et qui prennent en charge également l'organisation donc des tâches familiales et domestiques. Les formes exacerbées de mobilité que sont les séjours d'expatriation correspondent généralement au décrochage entre les carrières au sein des couples biactifs, entre une forte progression de carrière pour les hommes ainsi qu'un step financier pour la famille qui prime sur la carrière des femmes qui entament souvent pour le coup une carrière de mère au foyer sans retour possible vers l'emploi. La trajectoire de Valérie Deveau montre comment ses enfants et l'expatriation à Boston, qui représente une étape importante dans la carrière de son mari au sein de l'entreprise Dassault, prime sa carrière à elle d'ingénieur dans l'industrie automobile. Donc, de retour en France, les nombreux voyages de son mari, liés à son poste à haute responsabilité, l'incitent à rester, elle, inactive. Elle me dit « J'ai démissionné en 2005, oui, parce qu'on est parti à l'étranger. J'ai pu mettre des congés parentaux pour ma deuxième et pour mon troisième enfant. Mais après, une fois que ça arrive à échéance, il faut démissionner, quoi. Je ne pouvais pas rentrer en France. Et quand vous êtes rentré en 2008, est-ce que vous vous êtes posé la question ?» De reprendre ? Non. J'ai un mari qui voyage beaucoup, beaucoup, et j'avais toujours trois enfants. Rire. Et puis, j'ai un mari qui a énormément voyagé, qui était quasiment absent une semaine sur deux. Donc avec trois, à part d'être Wonder Woman, on ne peut pas gérer une carrière de front et trois enfants. C'est pas possible. Donc à la mobilité quotidienne des hommes, à l'échelle francilienne, correspond l'enfermement résidentiel, pour reprendre les termes d'Anne Lambert, et les petites mobilités de proximité autour de l'école et du foyer pour les femmes. Mais le travail n'est pas l'unique motif poussant à la mobilité les classes supérieures, et les fractions de classe que j'étudie tout particulièrement, puisque les mobilités de loisirs occupent une place importante de leurs déplacements. Les ménages étudiés partent régulièrement en vacances à l'étranger, et cette mobilité récréative a d'ailleurs parfois compliqué la prise de rendez-vous durant mon enquête de terrain, et a souvent été évoquée au moment de planifier un entretien. Madame Prévost, qui est retraitée, mariée à un chef d'entreprise avec un enfant, me dit par exemple, là au mois de novembre, nous sommes allés à Maurice avec des amis, on aime bien, et puis voilà, quoi, on se repose, on fait rien, et puis c'est ça les vraies vacances. Béatrice Cartier, mère au foyer, mariée à un avocat avec quatre enfants, me dit, nous, on adore New York. On adore New York. On y est très souvent. Ils sont également nombreux à posséder une maison secondaire dans laquelle ils se rendent régulièrement et qui structure leurs déplacements à l'échelle nationale. Le choix de la localisation de la maison secondaire se fait parfois pour des raisons d'ancrage familial, mais plus couramment dans des lieux emblématiques du tourisme français de classe supérieure, et notamment en Normandie, donc le Touquet, la Baule, Deauville, sur la Côte d'Azur ou encore dans les Alpes. Madame Prévost, qui parlait de son voyage récent sur l'île Maurice, a également deux résidences secondaires qui remplissent des fonctions différentes selon leur éloignement à Paris. Donc je lui demande, est-ce que vous avez une maison secondaire ? Oui, nous en avons deux. Nous avons une maison dans le golfe de Saint-Tropez, à la sortie de Sainte-Maxime, les Isambres, je ne sais pas si vous connaissez. Parce qu'il y a pas mal de gens de la Varenne qui sont aux Isambres. Vous savez, le bouche à oreille, tiens, un tel a acheté tiens, c'est pas mal. Voilà. Et nous avons aussi une autre maison que nous sommes en train de rénover à Deauville, c'est beaucoup plus proche. Pour les petites, c'est quand même mieux. C'est moins loin, c'est vrai que ça fait 900 km, c'est une expédition de descendre dans le sud. Donc le choix de ces lieux de villégiature témoigne d'une recherche d'entre-soi qui se prolonge au-delà du choix de la résidence principale et qui consolide le statut résidentiel de mes enquêtés et envoie un signal fort quant à leur appartenance de classe. Plus rarement, la maison secondaire est à l'étranger, c'est notamment le cas au sein de configurations familiales fortement internationalisées, mais que je n'aurai pas le temps de développer ici. Les déplacements professionnels et de loisirs des classes supérieures mettent donc en lumière leur forte mobilité. Ces fractions de classe disposent des ressources nécessaires leur permettant d'être mobiles dans de très bonnes conditions. Au-delà d'un confort matériel, ces stratégies de mobilité leur permettent également d'augmenter leurs capitaux, à la fois en termes de statut résidentiel, on l'a vu grâce aux résidences secondaires, mais également car les postes du secteur privé qui impliquent une grande mobilité, donc déplacement ou expatriation, sont fortement valorisés et fortement rémunérés. Les figures plus traditionnelles de notables à l'échelle locale, donc que sont les professions libérales et les chefs d'entreprise, sont moins mobiles, et parmi ceux qui sont mobiles, ils sont davantage à une échelle nationale. Cependant, ce ne sont pas les seuls à profiter d'un ancrage territorial, et nous allons voir qu'en parallèle de ces pratiques de mobilité, les classes supérieures étudiées investissent l'échelle locale. Les familles étudiées s'installent durablement au sein de leur quartier, caractérisé par un fort entre-soi et de leur maison, choisie avec minutie. Les classes supérieures tirent des ressources de cet ancrage résidentiel, comme l'a montré donc Sylvie Tissot en adaptant la notion de capital d'autochtonie Jean-Noël Retière aux classes supérieures. À la différence de l'endocratie ouvrière issue des classes populaires, mes enquêtés ne s'investissent pas directement dans les réseaux politiques locaux. Ils sont même dans une grande majorité méfiants à l'égard de la politique de manière générale. Mais certains s'impliquent dans des structures à l'échelle locale, notamment dans des conseils syndicaux et dans des conseils de village, qui sont l'appellation locale des conseils de quartier, au sein desquels ils cherchent à maîtriser leur patrimoine et à augmenter leur respectabilité locale. Ils peuvent également y bénéficier d'un certain clientélisme municipal, dont je développe un exemple dans le papier. Les conseils syndicaux fonctionnent comme des cellules de veille de la gestion patrimoniale de l'espace et sont une institution centrale dans la diffusion du pouvoir à l'échelle locale. À côté de l'investissement au sein de conseils syndicaux et de villages, les habitants des quartiers étudiés s'engagent également dans le secteur associatif local et notamment dans les réseaux communautaires religieux. Les activités bénévoles, en majorité réalisées par les femmes, au sein des écoles et au sein de la paroisse, renforcent elles aussi la respectabilité des familles et donc leur capital social. Une autre dimension importante du capital d'autochtonie est la maîtrise de l'histoire du quartier et des entreprises mémorielles. Les habitants rencontrés ont à cœur de mettre en avant le patrimoine historique de leur quartier pour en rehausser le prestige symbolique. La mise en place d'un label historique permet au quartier de gagner en dignité culturelle, mais cette entreprise de patrimonialisation permet aussi d'augmenter la valeur économique des biens immobiliers et d'empêcher la densification du quartier. Dans le cas de Rueil-Malmaison, ce label historique est mis en avant par les habitants, qui mobilisent couramment dans leurs discours Napoléon et l'impératrice Joséphine, qui ont acquis un château dans le quartier étudié. Cette mention historique est également présente dans le récit porté par la municipalité qui labellise Rueil-Malmaison de ville impériale. Enfin, les stratégies d'ancrage résidentiel intergénérationnel, centrales dans la captation du capital d'autochtonie chez les classes populaires, sont également présentes chez les classes supérieures et permettent aux enquêtés concernés de bénéficier davantage en nature d'informations privilégiées et d'hériter du pouvoir local forgé par la famille. En effet, des transmissions matérielles, donc de patrimoine immobilier, mais aussi beaucoup d'entreprises, et également de transmissions immatérielles, de renom, de prestige ou d'opportunités, sont particulièrement visibles dans le cas d'ancrage intergénérationnel. C'est le cas de la famille Guillet, qui est à Saint-Maur-des-Fossés depuis au moins 4 générations. Donc là, ça va être un peu compliqué, mais à l'origine, c'est Edmond Guillet, qui naît à Saint-Maur-des-Fossés dans les années 1850. Il part ensuite vivre à Paris, mais achète une maison de villégiature sur les bords de Marne. Il a deux fils qui naissent dans le quartier de la Varenne à Saint-Maur, Louis et Charles. Louis devient un architecte de renom et il construit de nombreuses propriétés à Saint-Maur au début du XXe siècle, dont certaines sont classées aujourd'hui. Charles, lui, va fonder une entreprise de radiateurs à Saint-Maur. Moi, j'ai rencontré le fils de Charles, Benoît Guillet et sa femme, qui ont 81 et 82 ans. Benoît Guillet a donc repris l'entreprise familiale, mais il a été obligé de la liquider avant d'être ingénieur salarié. Il a perpétué cet ancrage résidentiel familial, puisqu'il achète en 67 une maison dans laquelle ils vont élever leurs 4 filles et où ils vivent encore aujourd'hui. J'ai également rencontré la petite-fille de Louis Guillet, l'architecte, Marie-Laure Guillet, qui est née en 55 à la Varenne. Elle est présidente d'une association de réinsertion qu'elle a fondée à Saint-Maur et elle est célibataire sans enfant. Elle et son frère vivent tous les deux à la Varenne, dans des maisons séparées, et dans cette partie de la famille, l'ancrage résidentiel a été facilité par le patrimoine immobilier laissé par le grand-père architecte. Donc, pour son cas, outre des maisons qu'elle loue, Marie-Laure Guillet habite également dans une maison dont elle a hérité et qui a été construite par son grand-père. Elle a fait encadrer dans le salon un plan de coupe qu'il a lui-même réalisé et elle milite activement pour la reconnaissance de son travail et notamment pour la création d'une rue à son nom. Alors, cet ancrage à l'échelle locale au sein d'institutions comme les conseils syndicaux ou de quartier, les associations de parents d'élèves ou encore les paroisses s'accompagne également d'une pratique forte de l'espace local pour des pratiques donc de loisirs avec un usage récréatif des bords de Marne et des bords de Seine, mais également pour un usage de consommation, notamment au sein des magasins de bouche, du marché ou encore des restaurants à l'échelle locale et même micro-locale du quartier. Cet investissement à l'échelle du quartier se prolonge au sein du logement, lieu par excellence du repli de ces fractions de classe aisées. Leurs ressources économiques ainsi que l'investissement en temps consacré au choix du logement permettent aux ménages étudiés de choisir un logement dans lequel ils vont rester sur le long terme et qui incarne l'aboutissement de leur carrière résidentielle. Cette stabilité résidentielle est une condition nécessaire à l'accumulation d'un capital d'autochtonie et elle conforte le pouvoir local forgé à l'échelle du quartier. En parallèle des logiques de mobilité que j'ai mises en avant dans la première partie, les classes supérieures étudiées sont également très casanières, et notamment pour profiter du cadre de vie que constitue la maison et le jardin. Cette tendance à être casanier est parfois envisagée pour compenser les déplacements des hommes, mais elle vient renforcer l'enfermement domestique des femmes au foyer, qui ont déjà une présence très extensive au domicile. Donc Béatrice Cartier, dont on a déjà parlé, qui est mère au foyer, mariée à un avocat avec 4 enfants, me dit « Mais je pense qu'il apprécie. Le fait de faire tant de kilomètres, il apprécie d'être au calme. Il supporte tous ces kilomètres parce qu'elle calme. On a la chance d'avoir une piscine, donc l'été, on est dans le jardin. Voilà, il en profite, quoi. » Non, mais nous, on reste beaucoup là le week-end, parce que mon mari est crevé, et on apprécie la maison, la cheminée. Non, on est très casanier, très très casanier. Alors si on sort, on va marcher au Bois Saint-Cucufa, mon mari joue au tennis ce samedi aux Pyramides, mais on sort très peu. Voilà, alors pour conclure, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, l'analyse localisée des classes sociales permet de montrer comment ces dernières tirent des ressources d'un ancrage spatial et comment leur appartenance de classe modèle leur rapport au logement et à l'espace. Les classes supérieures, comme j'essaie de le montrer, articulent de manière profitable des logiques d'ancrage et de mobilité qui viennent rehausser donc leur statut résidentiel, leurs ressources économiques, mais également leur capital social érigé à l'échelle locale. Cette combinaison repose sur la prise en charge de l'économie domestique par les femmes, qui peut aller jusqu'à leur assignation à domicile ou au temps partiel. Merci.
Merci beaucoup, bravo d'avoir si bien respecté le temps, 19 minutes. Alors, je vous invite à faire le même effort, voilà, si vous pouviez raccourcir votre communication d'une minute, ce serait parfait, on serait un peu moins en retard pour déjeuner. Je passe la parole tout de suite à Rémi Abouzi.
Alors, merci à mon tour de remercier les organisateurs et organisatrices de me donner la possibilité de vous présenter ces résultats. Donc, moi, je vais vous parler des catégories populaires et immigrées à partir des résultats d'une thèse en sociologie qui s'intéresse au programme de rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois-Montfermeil en Île-de-France. Donc, ce programme de rénovation urbaine a la particularité d'entraîner la démolition de logements en copropriété privée dégradée et de reconstruire à la place de ces logements, de généraliser une offre de logements sociaux. Donc ça veut dire que les habitants qui sont bénéficiaires de ce programme de rénovation urbaine et qui sont relogés dans le cadre de ce programme passent du statut de propriétaire du parc privé et ou locataire du parc privé à celui de locataire du parc social. Par rapport à ce contexte, moi je me suis interrogé sur le point suivant, c'est qu'on sait que théoriquement et symboliquement, la position résidentielle d'un individu se construit à partir des caractéristiques du logement, à partir de son emplacement, de son statut d'occupation. Le logement est un marqueur social pour les individus à l'origine d'un processus de classement. Et il est un élément constitutif de la position sociale donc d'un individu. En considérant ce point de vue théorique et partant aussi du contexte du programme de rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, donc qui entraîne le relogement des habitants dans le parc social, je me suis posé la question de savoir que provoquait le changement de statut résidentiel et le relogement pour les habitants qui en sont les destinataires et quelles sont les conséquences de ce relogement sur les hiérarchies internes à ces catégories et notamment à l'échelle de la d'une des copropriétés de ces deux communes. Je me suis intéressé à la copropriété de la Forestière à Clichy-sous-Bois. En termes de méthode, l'enquête que j'ai réalisée s'appuie sur la réalisation de 33 entretiens qualitatifs auprès de ménages donc habitants à la Forestière à Clichy-sous-Bois. Parmi eux, j'en ai rencontré 18 avant et après relogement, 7 uniquement avant relogement, puisqu'en fait, ils font partie des ménages qui ont refusé la deuxième rencontre, et 8 seulement quelques années après relogement, puisque je les ai interrogés bien plusieurs années après leur déménagement. L'enquête s'est déroulée de 2012 à 2015. Donc, dans cette communication, je vais vous présenter les modalités d'entrée des habitants dans la copropriété, leurs caractéristiques sociales, la façon dont ils ont fait face à la dégradation. Cette présentation permettra de les situer socialement et aussi de les hiérarchiser dans cette copropriété. Et ensuite, je vais revenir sur les effets du relogement dans le parc social et sur la façon dont ce relogement déstabilise les habitants jusqu'à bouleverser les hiérarchies internes dans cette copropriété. Donc ici, c'est mon dernier slide, puisqu'en fait, il reprend l'ensemble de ma communication, mais je trouvais intéressant que vous ayez la typologie en entier. Donc, dans la copropriété, les habitants se différencient par leur position professionnelle, par leur ancienneté migratoire et aussi et surtout par leur statut résidentiel et les raisons qui les ont conduits à accéder à ce statut résidentiel et à s'installer dans la copropriété. Donc on a d'abord d'un côté les propriétaires occupants qui, de manière générale, sont les habitants les plus socialement dotés, les plus stables professionnellement et les plus stables aussi dans leur trajectoire migratoire. Donc pour la moitié des anciens propriétaires, l'accès à la propriété faisait partie de leur projet. À l'origine de ce projet se trouvent des arguments économiques et familiaux. C'est notamment ceux qui ont accédé à la propriété dans l'espoir que ce statut, par anticipation au fait que ce statut pouvait permettre, était un gage de sécurité en vue notamment de la baisse de revenus au moment du passage à la retraite ou en cas de baisse de revenus si leur trajectoire professionnelle était impactée par exemple par le chômage, etc. Ou c'est ceux qui avaient anticipé pour des raisons familiales, c'est ceux qui ont voulu acheter suite par exemple à l'arrivée d'un nouvel enfant et qui avaient la nécessité d'avoir un logement plus grand. En termes de caractéristiques, ces propriétaires par choix sont ceux qui à l'échelle des habitants occupent les emplois les plus qualifiés, les plus stables, ils sont le plus souvent en CDI, ils n'ont jamais connu d'interruption dans leur activité professionnelle et c'est ceux aussi qui parmi l'ensemble des habitants que j'ai rencontrés occupent les positions migratoires les plus stables et où tout simplement c'est dans cette catégorie que se trouve la plus grande part de ménages français que j'ai interrogés, qu'ils soient issus de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer. S'il est indéniable que leur stabilité professionnelle leur a facilité l'accès à la propriété, notamment en termes de démarches, ça a facilité l'accès à l'octroi d'un crédit immobilier, il faut quand même souligner que leur faible niveau de revenus a grandement limité l'éventail des choix et l'éventail des possibles, puisque l'accès à la propriété s'est souvent fait au prix d'un éloignement par rapport à leur lieu de travail ou par rapport à leur ancien lieu d'habitation. Face à eux, une autre moitié de propriétaires rencontrés a accédé à statut résidentiel par défaut. C'est des ménages qui, malgré des trajectoires professionnelles relativement stables, occupent des emplois souvent moins qualifiés. Ils sont aussi plus souvent issus de l'immigration. Avant d'investir dans la copropriété, c'est des habitants qui occupaient un logement en location et qui, en fait, ont accédé à la copropriété pour résoudre une situation urgente. Alors, soit suite à la délivrance d'un congé vente ou d'un congé reprise de la part de leur ancien propriétaire qui les a obligés à se reloger rapidement, soit pour répondre à une urgence administrative. C'est le cas de certains qui ont accédé à la propriété pour pouvoir justifier d'un logement plus grand, notamment dans le but de prétendre regroupement familial. Et aussi paradoxe que cela semble être, il a été beaucoup plus facile de se reloger en accédant à la propriété que dans le parc privé. Mais là aussi, du fait de leurs faibles revenus, ils se sont orientés vers cette copropriété de la Forestière à Clichy-sous-Bois, puisqu'elle représentait une offre de logement moins onéreuse en termes de prix au mètre carré qu'ailleurs. Au-delà de ces diverses raisons de devenir propriétaires, ces habitants se différencient ensuite par leur façon de vivre dans la copropriété et de faire face à la dégradation. Si on revient au cas des propriétaires par défaut, c'est ceux qui, du fait de l'injonction qu'ils ont eue à se reloger rapidement suite à la délivrance du congé vente, comme je l'ai dit, ou de l'urgence administrative, ont pris conscience de leur faible marge de manœuvre sur le marché résidentiel. Ils ont tout de suite su aussi, après une fois l'installation dans la copropriété effectuée, qu'il leur serait difficile de revendre leur appartement et de quitter la copropriété. Et c'est donc pour tenter de rendre leurs conditions de vie plus acceptables que ce sont les habitants qui se sont le plus investis dans la vie de la résidence et face à la dégradation des bâtiments. Ils ont par exemple réalisé à leurs frais plusieurs travaux de réparation. C'est le cas de ceux qui ont peint les paliers des immeubles à leurs frais, qui nettoyaient les paliers en même temps qu'ils nettoyaient leur appartement. Et c'est aussi dans cette catégorie que se trouve la plus grande part d'habitants qui ont participé au conseil syndical pendant toutes les années où ils ont vécu dans la copropriété. Cette situation est un peu ici atypique puisque c'est finalement les moins dotés de ces propriétaires qui s'investissent le plus dans la vie de la copropriété, pour la défense de la copropriété. Néanmoins, cette participation dans la vie collective de la copropriété a donné à ces propriétaires une connaissance précise des motifs qui entraînaient la dégradation des bâtiments. Notamment, c'est des propriétaires qui ont pleinement conscience de la responsabilité des différents syndics qui se sont succédés dans ces copropriétés, de leur mauvaise gestion et de la façon dont les mauvaises gestions ont aussi aggravé la dégradation de ces copropriétés, et notamment accentué les dettes de charges, puisque c'est des copropriétés qui étaient marquées par d'importantes dettes de charges. À côté, les propriétaires par choix, donc ceux qui avaient choisi de devenir propriétaires, sont ceux qui mettent le plus à distance le quartier et qui perçoivent la dégradation des bâtiments comme un vecteur de stigmatisation. Avec l'achat d'un appartement, c'est des habitants qui espéraient avoir accès à un statut résidentiel valorisé et en cohérence par rapport à leur stabilité professionnelle. Or, pour eux, l'histoire de la copropriété et son processus de dégradation remettent en cause les bénéfices distinctifs qu'ils allouaient initialement au statut de propriétaire. Alors, si certains ont essayé de revendre leur appartement, cette démarche n'a jamais abouti, ils n'ont pas réussi à revendre leur appartement. Et donc, en se retrouvant assignés à résidence, ces propriétaires par choix sont ceux qui ont essayé de contourner le stigmate d'un environnement résidentiel dévalorisé, en se repliant sur la sphère privée, en mettant à distance le quartier, les relations de voisinage, et en privilégiant notamment, par exemple, d'autres réseaux, comme les réseaux tissés dans la sphère professionnelle plutôt que ceux tissés dans la sphère résidentielle. Du côté des locataires, l'expérience des locataires s'unit par les difficultés qu'ils ont eues à pouvoir accéder à un logement stable au moment de leur arrivée en France, puisqu'ils sont pour la plupart issus de l'immigration. Tout d'abord, il leur a été impossible d'accéder au parc social du fait, en premier lieu, de leur irrégularité administrative les premiers mois où ils sont arrivés en France, puis ensuite, compte tenu des délais d'attente pour l'attribution d'un logement social en Île-de-France. Pour ce qui est du parc privé non dégradé, là aussi, ils ont été limités par leur irrégularité administrative, puis ensuite, ils ont été limités par le fait que leurs dossiers ont été peu compétitifs du fait de leur trajectoire professionnelle parfois instable ou entrecoupée entre périodes d'activité et d'inactivité. Par opposition, c'est du fait de sa dégradation que la copropriété de la Forestière a constitué une offre de logement dans lesquelles les conditions d'entrée étaient moins sévères qu'ailleurs et moins sévères que dans le reste du parc privé. Quand la copropriété constitue donc pour eux la seule solution de logement, ces locataires ne constituent pas non plus une catégorie homogène. Il y a d'un côté les locataires les plus précaires, c'est ceux qui vivent partiellement ou totalement des aides publiques, donc allocation chômage, RSA, allocation adulte handicapé. Lorsqu'ils travaillent, ils occupent les emplois les moins qualifiés. Ils sont plus souvent recrutés en CDD ou en intérim. Et par rapport à la dégradation des bâtiments, ils la reconnaissent, mais ils se satisfont presque de leurs conditions de logement dès lors qu'ils savent qu'ils sont dans un espace peu onéreux, ou en tout cas moins cher qu'ailleurs, et qu'ils ont conscience de leurs difficultés, des difficultés qu'ils auront à accéder à un autre type de bien. D'un autre côté, se trouvent les locataires qui, malgré des positions professionnelles aujourd'hui dominées, connaissent une relative stabilité professionnelle ou avaient pour caractéristique d'occuper une position professionnelle bien plus élevée dans leur pays d'origine. C'est le cas, par exemple, d'une habitante qui est aujourd'hui employée de ménage à temps partiel mais en CDI, ou encore d'un autre habitant qui est à présent auto-entrepreneur dans la réparation de véhicules mais qui était ingénieur en écologie dans son pays d'origine au Congo. À la différence des locataires les plus précaires, ces locataires-là ne se satisfont pas de leurs conditions de logement. Au contraire, ils la vivent comme incohérente par rapport à leur stabilité professionnelle ou à leur ancienne position, à la position qu'ils connaissaient dans leur pays d'origine. Et tous les habitants de cette catégorie ont tenté de quitter la copropriété en formulant une demande de logement social, mais celle-ci n'a jamais abouti. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que ces habitants sont relogés et intègrent le logement social? Donc, comme je vous l'ai dit, le programme de rénovation urbaine entraîne la démolition intégrale de la copropriété et le relogement des habitants. Pour comprendre, aller un peu plus loin quant aux effets de cette entrée dans le parc social, il faut le dire, et je vais le dire très rapidement, que le parc social impose aussi l'intervention de plusieurs professionnels, gardiens d'immeubles, médiateurs, chargés de gestion locative, qui sont en charge de s'assurer du bon fonctionnement des résidences et qui mettent en place des actions d'encadrement des habitants par rapport à un règlement intérieur. Donc, les effets de l'entrée dans le logement social pour comprendre les effets de l'entrée dans le logement social, il faut bien évidemment s'intéresser au changement de statut résidentiel, mais aussi aux effets de la confrontation par rapport aux actions de ces professionnels qu'induit le logement social. De manière générale, la perte de la propriété constitue une véritable chute symbolique pour ceux qui la possédaient. Ce sentiment s'objectif quand c'est les habitants et ses anciens propriétaires. Donner plusieurs fonctions à cette propriété. La première fonction, c'était une fonction distinctive qui passait par la possibilité de se constituer un capital patrimonial transmissible d'une génération à une autre, qui, même s'il était en valeur et en volume bien inférieur par rapport aux catégories moyennes et supérieures, avait une fonction distinctive par rapport au reste des catégories populaires. En étant exproprié et en redevenant locataire du parc social, la rénovation urbaine limite les possibilités limite la fonction distinctive de la propriété, remet en cause cette fonction distinctive de la propriété qui était allouée à la propriété. Ensuite, la propriété avait pour ses propriétaires une fonction protectrice, je l'ai dit, en vue de notamment la baisse du revenu au moment du passage à la retraite, ou en cas par exemple, il y avait un accident dans la trajectoire professionnelle du type chômage qui pouvait entraîner une baisse de revenus. C'est des propriétaires qui valorisaient la possibilité d'avoir un capital avec une fonction protectrice. Et enfin, la propriété avait une fonction symbolique extrêmement forte. Les habitants de cette copropriété sont en grande partie issus d'immigration. Pour eux, posséder un logement en France, c'était la possibilité de se sédentariser sur le territoire français, de posséder un bien qui les défaisait de la figure de l'immigré provisoire. En intégrant le logement social, c'est des propriétaires qui perdent cette fonction-là. C'est donc parce que la propriété possédait bien d'autres fonctions que celle de loger les habitants, qu'ils se sentent que ces anciens propriétaires se sentent majoritairement déclassés. Malgré tout, la manière de gérer cette chute symbolique est différente en fonction des conditions d'entrée dans la copropriété. Ainsi, la chute est totale pour ceux qui étaient les propriétaires par défaut. Pourquoi ? Parce que ce sont les habitants qui se sont le plus investis dans la vie de la copropriété. Et maintenant, quand ils sont confrontés aux actions des gardiens d'immeubles, des médiateurs, etc., en même temps qu'ils légitiment ces actions de rappel des règles, ils les trouvent infantilisantes et humiliantes parce qu'ils considèrent ne pas avoir à être les destinataires de ces règles, puisqu'eux considèrent qu'on n'a pas à leur rappeler un règlement intérieur puisqu'ils savent se comporter dans les immeubles. Du côté des propriétaires qui étaient devenus propriétaires par choix, le sentiment de chute est à l'inverse plus partiel. Ils regrettent, comme les autres, la perte de leur statut de la propriété. Malgré tout, ils reconnaissent avoir été logés dans un environnement plus esthétiquement valorisé. Donc du coup, eux, ils vont être dans un rapport complètement différent par rapport aux gardiens d'immeubles, aux médiateurs, dans le sens où ils vont accepter les rappels des règles, puisqu'ils vont les voir comme le seul moyen d'éviter une nouvelle situation de dégradation et qu'une nouvelle situation de dégradation ne les déclasse. Malgré tout, la perte de la propriété vient pour eux extrêmement difficile, puisque c'est des habitants qui vont aujourd'hui mentir sur leur nouveau statut résidentiel et qui vont cacher le fait d'être devenus locataires à leur entourage pour contourner la chute symbolique de ne plus être propriétaire. À l'inverse des propriétaires, lorsque les locataires accèdent au parc social, ils changent de logement, mais pas réellement de statut résidentiel, puisque dans les deux cas, ils étaient locataires. Alors, ils passent d'une location du parc privé à une location du parc social, mais le regard qu'ils portent sur leur déménagement est ici complètement différent. Comme ils sont plusieurs à le souligner, comme ils passent d'un logement dans une copropriété dégradée à un logement neuf, ils valorisent le fait d'avoir accédé à un logement neuf qu'ils présentent comme une chance, comme l'occasion de vivre dans des conditions similaires et dans les conditions majoritairement répandues en France. C'est donc ici l'expérience du reclassement résidentiel qui domine chez ces locataires, mais là aussi il y a différentes manières de voir ce reclassement résidentiel. Le reclassement est partiel pour les locataires qui étaient dans la copropriété les locataires les plus précarisés. Pourquoi ? Parce que même s'ils reconnaissent avoir eu accès à un logement plus esthétiquement valorisé, La rénovation urbaine et l'accès au logement dans le parc social, le logement social coûte souvent plus cher que celui qu'ils connaissaient dans la copropriété, notamment du fait de l'individualisation de plusieurs charges mensuelles. Et c'est des habitants, des locataires qui craignent aujourd'hui que leur trajectoire résidentielle ascendante soit mise à mal par leur difficulté à faire face aux nouvelles dépenses que procure l'accès au logement social. C'est notamment ceux, et ça s'est avéré, puisque c'est des locataires qui, dès les premiers mois après leur emménagement, se retrouvent parfois fragilisés par les charges qu'ils n'arrivent pas à payer ou n'arrivent pas à meubler leur appartement puisque le loyer dans le logement social est plus cher, qu'ils n'ont pas pu conserver tous leurs meubles et qu'ils vivent dans des appartements qu'ils n'arrivent pas à meubler, ou des personnes qui ont accumulé un fort découvert bancaire qui n'arrivent pas à combler. Donc eux, par rapport aux actions des professionnels, ici ils les acceptent, les actions d'encadrement, ils les voient comme le seul moyen de limiter une augmentation des charges qui les mettrait dans une situation encore plus délicate. À l'opposé, le reclassement est total pour les locataires qui vivaient les locataires les plus stables professionnellement ou qui avaient une position stable dans leur pays d'origine, qui vivaient la copropriété comme un déclassement. Pour eux, en étant relogés dans le parc social, ils ont enfin accédé à une position résidentielle en conformité par rapport à leur stabilité professionnelle ou par rapport à la position qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Et ils acceptent, eux, les actions et les actions des professionnels ne font que les conforter dans ce sens-là, puisqu'ils les voient pour eux comme un moyen d'éviter toute dégradation qui serait un vecteur de déclassement à nouveau par rapport à leur stabilité professionnelle. Donc pour conclure, je voudrais dire que cette généralisation du parc social n'est pas sans conséquence. Si par ce biais les habitants accèdent à des conditions de logement objectivement plus confortable, parce que moins dégradé. C'est pourtant parce que cette opération ne tient pas compte des fonctions symboliques et classificatoires du logement que celle-ci provoque des situations de déstabilisation et d'inversion dans les hiérarchies internes à ces catégories populaires et de déstabilisation des trajectoires. Très concrètement, alors que les anciens propriétaires, du fait de leur position sociale et de leur statut résidentiel, constitués dans la copropriété la frange supérieure de ce groupe social, ce sont aujourd'hui ceux qui se sentent le plus déclassés par le relogement dans le parc social et qui éprouvent le plus de mal à contourner les effets de ce déclassement. Quant à l'inverse, les locataires, du fait de leur position résidentielle, mais aussi de leur position sociale, occupés dans la copropriété les positions les plus dominées, c'est aujourd'hui ceux qui se trouvent les plus réhabilités d'avoir accédé au parc social et qui se retrouvent aujourd'hui les plus reclassés par cette opération. Donc, voilà. Merci.
Merci beaucoup d'avoir respecté le temps. 19 minutes et 45 secondes. Et je passe immédiatement la parole à Quentin Ramon.
Alors, merci, ça marche quoi ? Merci Élie, merci Bruno et merci aux organisatrices et aux organisateurs des journées. Alors, aujourd'hui, moi je vais aborder le thème du déclassement, plus précisément du déclassement résidentiel, en cherchant à savoir si l'expérience du logement social est une forme donc de déclassement résidentiel pour les classes moyennes. Donc ce travail s'inscrit dans une thèse en cours qui porte plus largement sur la place et le rôle des classes moyennes dans les dynamiques de ségrégation. Et plusieurs constats de départ m'ont en fait amené à placer le thème du déclassement au centre de ma thèse et à me poser la question de la manière dont les expériences résidentielles étaient vécues par les classes moyennes en lien avec leur trajectoire sociale. Alors c'est d'abord le constat que les classes moyennes sont aujourd'hui un groupe confronté au déclassement, réel ou craint, d'accord, que d'ailleurs plusieurs travaux mobilisent ce concept pour décrire la dégradation de leurs conditions de vie et la fragilisation de leur statut social. Face à cette crainte du déclassement, ces mêmes travaux ont montré que les classes moyennes attachent au logement un rôle croissant dans la définition de leur statut social et la sécurisation de leur parcours. En particulier, l'accession à la propriété serait une aspiration structurante des classes moyennes, car elle constituerait un élément central de leur stratégie de sécurisation patrimoniale et de valorisation statutaire. Or, aujourd'hui, l'augmentation des prix de l'immobilier fragilise les parcours résidentiels des classes moyennes et limite considérablement leur accès aux zones les plus centrales des agglomérations. C'est par exemple ce qu'on voit sur ce graphique ici, donc très très rapidement, parce que c'est des choses qu'on sait tous, que les loyers dans le parc locatif privé ont considérablement augmenté depuis le début des années 2000, notamment en Île-de-France et à Paris. Pareil pour les prix de l'accession à la propriété, qui augmentent considérablement à mesure qu'on se rapproche du centre de Paris, donc ici à l'échelle de l'Île-de-France, et ici à l'échelle de Paris et de la Première Couronne, donc nettement plus cher dans le centre de Paris et aussi dans les Hauts-de-Seine, j'y reviendrai. Donc cette situation sur le marché immobilier fait en fait apparaître de nouveaux rapports entre statut social et conditions résidentielles des classes moyennes. En effet, une partie significative d'entre elles a recours au logement social, quand bien même celui-ci pourrait être associé, représenter un environnement résidentiel répulsif, puisqu'il serait associé à la concentration des catégories populaires et des populations immigrées. Or, ce tableau de statistiques descriptives très très simples montre que la position des classes moyennes dans le logement social change considérablement selon l'échelle territoriale qu'on considère. D'accord ? Donc si elles ne sont que 10,4% à avoir recours au logement social à l'échelle nationale, ce pourcentage s'élève à 18,2% en Île-de-France et à plus de 25% dans les Hauts-de-Seine, dont je viens de rappeler les prix élevés sur le marché immobilier. Donc très très rapidement, si on fait varier en fait les échelles d'analyse, le constat de l'existence d'un profond désaveu du logement social par les catégories intermédiaires ne tient plus vraiment en fait. Elles sont représentées de façon plus qu'anecdotique. Et de plus, si on compare aux autres catégories sociales, on voit que l'occupation d'un logement social distingue autant les classes moyennes des classes populaires, les classes populaires y étant nettement plus représentées, que des classes supérieures qui, elles, le sont nettement moins. Alors, autre élément d'introduction, sur ce graphe, en fait, représente la distribution des locataires en fonction de leur CSP dans les communes franciliennes que j'ai ventilées par quintile de revenus médians, d'accord. Donc, ce qu'on voit, ça se lit de la façon suivante. Si on regarde la première barre bleue, donc, qui est ici, c'est que 57% des ouvriers qui sont locataires du parc social vivent dans les communes appartement au premier quintile, donc aux 20% des communes les plus pauvres, pour le dire comme ça. Alors, si on regarde les barres vertes qui correspondent aux classes moyennes, on se rend compte qu'elles ne sont surreprésentées dans aucun type de commune, ou autrement dit qu'elles sont représentées dans les parcs sociaux de tous les types de communes. Ce qui n'est pas le cas des cadres, d'accord, qui sont ici représentés avec les barres rouges, qui sont nettement plus représentées dans les communes appartements au cinquième quintile, donc aux communes les plus favorisées. Alors, autre constat de départ, c'est que dans les travaux quantitatifs qui sont réalisés à des échelles territoriales larges, le statut de locataire dans le parc HLM des classes moyennes a largement été interprété dans le sens d'un déclassement résidentiel. En effet, les classes moyennes disposeraient de ressources socio-économiques qui devraient leur garantir une meilleure position dans la hiérarchie des statuts résidentiels. Toutefois, le ressenti des classes moyennes reste méconnu, alors même que le constat d'un désaveu généralisé semble excessif, on vient de le voir. Donc ici, je voudrais précisément étudier le ressenti qu'ont les classes moyennes de leur expérience dans le logement social et voir comment elles peuvent gérer ce déclassement, si tant est qu'il existe. Et je pense qu'en fait, c'est intéressant parce que c'est une manière de prolonger l'analyse des modifications en cours dans l'articulation de la stratification sociale aux positions résidentielles, d'interroger les logiques qui façonnent le déclassement résidentiel et ses modalités de gestion concrète, et enfin d'apporter un éclairage sur l'importance du logement et du territoire dans les formes actuelles de différenciation et de cohésion interne au groupe des classes moyennes. Alors, plus précisément, je chercherai à répondre à deux questions. D'abord, je chercherai à voir comment les classes moyennes décrivent leur position résidentielle, et je chercherai notamment à savoir si la location d'un logement social est vécue sur le registre du déclassement résultant d'une mobilité résidentielle bloquée. Et ensuite, j'essaierai de voir quelles sont les stratégies qui permettent d'accommoder l'éventuel décalage statutaire qui implique la location d'un logement social pour ce groupe. Alors, très rapidement, on pourra y revenir. Pour répondre à ces questions, je vais m'appuyer en fait sur une enquête de terrain que j'ai réalisée, que je vais terminer de réaliser, je pense, bientôt, conduite dans trois communes, donc trois communes des Hauts-de-Seine, on pourra aussi revenir sur ce choix, qui sont Clichy, donc tout près d'ici, Colombes et Clamart, donc une enquête par entretien dans les quartiers plus précisément appartenant au type moyen mélangé dans la typologie d'Edmond Pretseil. On pourra aussi revenir sur ce choix. Donc les personnes que j'ai rencontrées, évidemment, dans ce sous-échantillon de ma thèse, sont locataires d'un logement social, appartiennent aux professions intermédiaires, souvent pour les deux membres du couple, ont entre 38 et 50 ans, gagnent entre 1500 et 2200 euros net par mois par personne, et ont des enfants qui sont en âge d'être scolarisés soit en primaire, soit au collège. Alors, j'organiserai la présentation des résultats en trois temps. D'abord, je montrerai que l'occupation d'un logement social implique un sentiment de déclassement chez les classes moyennes qui opère selon trois mécanismes, d'accord ? D'abord, le sentiment d'un échec face à la contrainte du marché immobilier. Ensuite, une déception face aux espoirs résidentiels conduisant à la formation d'un sentiment d'injustice. Et enfin, le sentiment d'être en décalage par rapport à leur conception du peuplement du logement social. Mais je montrerai aussi dans cette première partie que le sentiment de déclassement n'est pas distribué de façon homogène selon les trajectoires résidentielles et les caractéristiques des contextes locaux. Deuxièmement, je montrerai ensuite que les classes moyennes tentent d'ajuster leur position sociale et résidentielle pour faire du logement social un statut résidentiel cohérent et acceptable, on pourrait dire. Pour cela, je montrerai qu'elles s'engagent d'une part dans un processus de rationalisation de leur trajectoire résidentielle et développent d'autre part une critique du marché immobilier. Enfin, j'insisterai sur les stratégies que mettent en place les classes moyennes pour marquer une distance avec les autres locataires situés en dessous d'elles dans la hiérarchie sociale et se construire un sentiment d'appartenance à un groupe de locataires spécifique. Alors, donc, sans plus attendre, l'occupation d'un logement social implique donc bien un sentiment de déclassement qui opère selon trois mécanismes. Donc, quels sont-ils ? D'abord, les classes moyennes décrivent le sentiment d'un échec face à la sélectivité du marché immobilier. Elles font l'état d'un parcours résidentiel contraint et mettent en avant que le logement social n'est pas tellement un choix, mais plutôt un recours par défaut. Ce sentiment d'être rétrogradé dans le logement social est amplifié lorsque le logement se trouve dans un environnement résidentiel perçu comme défavorisé et a fortiori homogène, et lorsque le logement social n'est pas inscrit dans les histoires résidentielles et familiales. Ensuite, les classes moyennes témoignent d'un sentiment de décalage entre leur position sociale et leurs conditions résidentielles, en accord avec la place qu'elles estiment occuper dans la hiérarchie sociale. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour évaluer le logement qu'elles estiment être en capacité d'atteindre, les classes moyennes repartent d'abord de leurs besoins et de leurs attentes, et non de leurs capacités financières objectives. D'accord ? C'est un point important. Et donc, la dissonance est d'autant moins acceptée que les personnes considèrent que leurs efforts consentis dans la sphère professionnelle devraient être récompensés par une position résidentielle plus valorisée. Or, on observe que bien souvent, l'état du marché immobilier interdit l'accroissement de la rentabilité des efforts concédés sur le plan professionnel. Apparaît alors un sentiment d'injustice qui est amplifié lorsque l'exclusion sur le marché du logement se double d'un accès compliqué au logement social. Les classes moyennes décrivent alors une situation d'entre-deux qui devient rapidement insupportable. C'est par exemple le cas d'Ophélie, donc là une longue citation, mais elle me dit « en fait c'est de l'injustice ». C'est-à-dire que je travaille, je n'ai jamais fait de conneries dans ma vie, je paye des impôts, je fais tout bien, je fais tout carré, et au final, justement parce que je fais tout carré, je suis condamné à vivre chez mes parents parce que dans le privé, il y a une inflation qui fait que je ne peux pas accéder à la propriété, et parce que dans le social, je suis pas dans une situation assez mauvaise. Bon, j'arrête cette citation, mais je précise aussi que ce sentiment d'injustice a d'ailleurs des effets palpables sur la manière dont les classes moyennes vivent la procédure d'attribution du logement social et leur rapport aux institutions publiques locales, mais je laisse ces aspects de côté, on pourra les développer dans la discussion. Alors, enfin, ce sentiment de déclassement provient de la sensation de ne pas correspondre au profil des locataires des logements sociaux. Cette impression provient du fait que pour une majorité d'entre elles, le logement social a vocation, en premier lieu en tout cas, à loger les personnes les plus en difficulté. Et j'insiste sur le fait que ce sentiment de décalage n'est pas vécu de la même manière selon les fractions des classes moyennes, d'accord ? Donc ça peut d'abord être vécu sur le sentiment d'un malaise, d'accord ? Notamment quand le logement se trouve dans un quartier défavorisé. Et un sentiment d'illégitimité quand les classes moyennes connaissent de courtes ascensions socio-professionnelles et qu'elles estiment ne pas avoir vocation à vivre dans le logement social. Donc, l'occupation d'un logement social implique donc bien un sentiment de déclassement qui est inégalement distribué. Mais face à ce déclassement, plus ou moins intensément vécu, les classes moyennes, et c'est ce qui m'intéresse ici, mettent en place plusieurs stratégies qui engagent un processus de requalification de leur statut. Au fondement de ces stratégies d'ajustement entre statut social et position résidentielle permettant de faire du logement social une situation cohérente, on trouve en premier lieu un processus de rationalisation de la trajectoire résidentielle. Cette rationalisation passe d'abord par l'affichage des avantages spatiaux et monétaires du logement social, d'accord ? Puisque les classes moyennes se comparent aux personnes vivant dans le parc privé et affichent une satisfaction du fait de payer une somme moindre et d'avoir su se maintenir en proche banlieue. Et cela est particulièrement net puisque mes communes sont situées dans le département des Hauts-de-Seine. On pourra y revenir. Ensuite, cette rationalisation passe par l'affichage de la location d'un logement social comme une transition. Ce point, il est particulièrement intéressant parce que la transition suppose de fixer des bornes temporelles au statut de locataire HLM. Autrement dit, afficher le logement social comme une transition suppose une capacité à se projeter vers dans l'avenir résidentiel. Or, ces capacités de projection sont très inégales, en fait. En effet, si la majorité des classes moyennes expriment leur aspiration à devenir propriétaire, leurs projets prennent différentes formes et ne sont pas autant aboutis les uns que les autres. Donc moi, à ce propos, j'ai notamment distingué ce que j'ai appelé les classes moyennes stratèges des autres, et ce groupe de classes moyennes stratèges est particulièrement intéressant parce qu'il donne à voir la mise en place de stratégies patrimoniales alternatives et de nouveaux arbitrages sur le marché du logement. Alors, il y a deux stratégies patrimoniales alternatives qui sont intéressantes. C'est d'abord celle des ménages de classe moyenne qui vont se tourner vers l'acquisition d'une résidence secondaire. C'est par exemple le cas de Mariana, donc qui est ancienne cadre commerciale, aujourd'hui enseignante contractuelle qui vit à Clichy, et qui me dit ce qu'on envisage quand je lui demande si elle pense à accéder à la propriété, ce qu'on envisage sérieusement depuis 2015 avec son mari, c'est d'acheter un bien secondaire pour les vacances, pour nos vieux jours, pour avoir un bien avec notre fille. je pense, donc propriétaire, oui, ça arrivera, elle en est convaincue, d'accord, mais je pense qu'on achètera d'abord la résidence secondaire avant la résidence principale, et peut-être d'ailleurs qu'on n'achètera jamais la principale et que la résidence secondaire deviendra la principale. La seconde stratégie patrimoniale alternative, c'est l'investissement locatif, en fait, et des locataires qui font un petit peu le pari d'un effet levier, d'accord ? C'est-à-dire qui vont utiliser leur capacité d'emprunt, leur capacité d'endettement, pour acheter des logements qui vont louer, d'accord ? Donc c'est par exemple le cas d'Aïssa et de Kamel, également à Clichy, qui disent qu'on aimerait faire, c'est acheter une petite surface, pas très loin d'ici, qu'on pourrait louer, par exemple à des étudiants qui s'autofinancent plus ou moins, plus on achète un autre et on fait pareil, et enfin, on pourrait acheter pour nous. Donc ce qui est particulièrement intéressant dans ces stratégies patrimoniales alternatives, c'est de voir que c'est aussi en partie leur statut de locataire dans le parc social qui suppose, mais qui rend aussi possible, d'envisager et de les mettre en œuvre. Alors, comment on peut expliquer finalement, pour conclure sur ce point, la différence entre des classes moyennes stratèges et les autres? C'est d'abord que la capacité des classes moyennes à se projeter dans un avenir résidentiel dépend en fait de la stabilité et de la maîtrise qu'elles ont de leur situation résidentielle présente. D'accord ? Cette stabilité et cette maîtrise leur permettent de se projeter car elles déterminent précisément en partie l'existence d'un minimum de chances de succès de leur projet. C'est donc, logiquement, les classes moyennes les plus intégrées sur le plan professionnel et les plus stables sur le plan familial, et qui vivent dans les quartiers les moins stigmatisés, que les projets sont les plus aboutis. Ensuite, pour les ménages ne bénéficiant pas de la perspective d'une transmission patrimoniale, dont on connaît l'importance aujourd'hui dans l'explication des inégalités, les aspirations résidentielles sont moins définies par l'horizon de l'accès à la propriété que tournées vers le maintien de positions sociales fragilisées. Au fondement de ces stratégies d'ajustement, permettant de faire du logement social donc une situation résidentielle cohérente, on trouve aussi la critique du marché immobilier. D'accord ? Donc cette critique, j'insiste, est une posture qui n'est pas préalable à l'entrée dans le logement social, mais elle est progressivement construite, d'accord, à mesure que les locataires, précisément, cherchent à accommoder leur position sociale et leur position résidentielle. Cette critique, elle a un rôle principal, c'est qu'elle permet aux classes moyennes d'expliquer collectivement leur statut de locataire HLM comme un effet des dysfonctionnements sur le marché immobilier et non plus comme un effet de leur échec. D'accord ? Donc c'est d'abord le marché du logement locatif qui est discrédité en raison des loyers élevés et de la compétition qui s'y exerce. Et ce qui est particulièrement intéressant, mais je ne rentre pas dans le détail ici, c'est que cette critique du marché locatif dessine les contours d'une relation conflictuelle entre différentes générations dans l'espace local, d'accord ? Entre eux, pour le dire schématiquement, des vieux qui sont en situation de rente parce qu'ils ont acheté leur appartement il y a longtemps et qu'ils les louent très cher, et des jeunes adultes qui entrent sur le marché de l'immobilier et qui sont en difficulté. C'est ensuite l'accession à la propriété qui est disqualifiée. Les classes moyennes mettent alors en avant l'épuisement du modèle ascensionnel de mobilité résidentielle dirigée vers la propriété et expriment une distance sociale très forte avec les propriétaires actuels. Et donc là, je me risque un petit peu à mobiliser le concept d'économie morale, en fait, en quelque sorte, pour comprendre cette invalidation du marché immobilier par les classes moyennes, parce qu'en fait, leur argumentaire repose sur une valeur et un principe qui sont transgressés par le marché. Cette valeur et ce principe, c'est en fait que les classes moyennes ne remettent pas en cause la hiérarchie des statuts résidentiels, mais ce qu'elles remettent en cause, c'est que l'égalité des chances n'est plus assurée et qu'en fait, elles perçoivent cela comme une inégalité injuste de circulation dans la hiérarchie des statuts. Et ensuite, c'est que leur argumentaire s'enracine dans le refus de payer un loyer au prix du marché, car cela représenterait un effort trop grand, voire irrationnel, même s'il est objectivement possible, et cela entraînerait de contribuer à l'augmentation des prix de l'immobilier en banlieue. Alors j'accélère un petit peu. Les classes moyennes mettent aussi en place des systèmes de classement et des dispositifs de requalification sociale, dont là, de manière un peu plus classique, qui repose en fait sur trois mécanismes. Je vais insister sur deux qui sont particulièrement intéressants. Alors, le premier mécanisme, ça repose en fait sur les principes de fonctionnement du secteur HLM. Ça, c'est intéressant parce que d'abord, la filière d'accès au logement social est un premier élément, un premier support qui permet de faire face à un habitat susceptible de renvoyer l'image d'une trajectoire résidentielle bloquée. C'est notamment le cas pour les classes moyennes qui ont accédé au logement social via ce qu'on appelle Action Logement, anciennement 1% patronal, d'accord. Cette procédure d'attribution, pour le dire très vite, qui est donc réservée aux salariés, aux revenus intermédiaires, d'accord, puisqu'elle invite d'abord les demandeurs de logements sociaux à afficher et à se reconnaître une situation économique stable et digne de confiance pour les bailleurs. C'est par exemple le cas d'une enquêtée qui a dissimulé à ce propos la situation professionnelle de son mari jugée trop précaire et qui a fait son dossier toute seule. Et ensuite, une fois locataire, avoir bénéficié du 1% patronal permet de mettre à distance les autres locataires ayant eu recours aux filières d'accès classiques. Et donc là, la ligne de démarcation se situe alors entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Alors, je vais très très vite là-dessus. On a aussi ce mécanisme pour les personnes qui ont bénéficié des contingents préfectoraux réservés aux agents de l'État, d'accord, parce que là, ils perçoivent l'accès à un logement social comme un avantage lié à l'emploi. Et alors, sur les logiques de distinction, je passe, on pourra y revenir, mais il y a un aspect qui, moi, m'intéresse beaucoup et que j'aimerais soumettre à la discussion, c'est ce troisième mécanisme de requalification statutaire qui repose, en fait, sur une relation spécifique au loyer, d'accord, qui est ici illustré dans l'extrait d'entretien de Christophe. Donc, on parle de ce logement, et il me dit... Je lui demande donc que ça s'appelle social ou privé, il me coupe la parole, et il me dit, après on dit social, mais quand on voit le prix du loyer, c'est presque au prix du privé, si tu veux. Donc c'est plus comme avant où tu avais l'OPHLM avec le logement social qui était à 500 euros et le privé qui était à 1000 euros. Quoi. La barrière, elle s'est vachement resserrée. Donc moi je lui demande, ah ouais, mais t'as regardé un peu les prix dans le privé, dans le quartier, tu connais? Ouais, un peu, mais je suis bien ici. Je sens que dans le privé, pour avoir cette superficie, je vais avoir à donner au moins 500 euros de plus. Donc en fait, on voit qu'il y a un rapport qui est ambivalent, d'accord. Les classes moyennes déclarent payer un loyer inférieur au secteur privé, et nombreuses sont d'ailleurs celles qui estiment ne pas pouvoir louer ou acheter au prix du marché. Mais en même temps, ces mêmes personnes, au cours des mêmes entretiens, et là j'ai rien coupé, hein, ça fait suite, c'est deux questions qui font suite, elles estiment payer un loyer élevé, proche ou équivalent, selon eux, du marché au loyer du marché. Donc, au-delà du caractère empiriquement erroné de ces estimations et d'une apparente dissonance cognitive, en quelque sorte, cette double relation de distance et de proximité entre les loyers du secteur social et privé joue un rôle primordial. D'abord, souligner que le loyer dont elle s'acquitte dans le logement social est proche des loyers de marché permet aux classes moyennes de se positionner comme des locataires ordinaires, d'accord ? Comme leurs homologues dans le parc privé, elles affirment devoir s'organiser pour payer un loyer important. Elles ne seraient donc pas dans une situation particulièrement avantageuse et s'affranchissent donc de l'image de ménage modeste bénéficiant de loyers réduits. Dans la relation ambivalente au loyer modéré, c'est en fait leur rapport plus large au coût financier, mais aussi sociaux et symboliques de la situation résidentielle qui est exprimée. Et je terminerai très rapidement sur ce schéma. En fait, on se rend compte que la surestimation du sacrifice financier consenti permet de diminuer le sentiment de déclassement associé au statut de locataire HLM et que tout fonctionne comme si, à mesure que le loyer payé dans le parc privé se rapproche, dans la perception des classes moyennes, du niveau de loyer sur le parc privé, le sentiment d'adéquation entre position sociale et position résidentielle croît. Alors, voilà, je ne conclue pas. Merci.
En fait, alors, Quentin, alors j'ai trouvé ton papier super intéressant, très stimulant. Je ne suis pas spécialiste des questions de logement social, mais vraiment, il me semble que en fait, le fait de s'intéresser, si tu veux... c'est une façon, en fait, aussi, en un sens, de revenir sur la vieille question de Chamboredon et Le Maire, qui nous disait, à l'époque, il y avait de la mixité, il y a des stratégies de distinction au sein du parc de logement social, ben, de montrer qu'en fait, c'est encore le cas, en fait, et que, évidemment, ça se passe différemment, mais que ce que décrivent Chamboredon et Le Maire n'était pas simplement un stade révolu d'il y a 47 ans ou 50 ans du logement social, mais qu'il y a encore des logiques similaires. Alors, du coup, en fait, ce que, un peu de la même façon que le faisait, en partie, mais avec beaucoup plus de détails, en fait, ce que tu nous décris, notamment à la fin de ton papier, c'est en fait une logique, en fait, c'est en fait une économie symbolique, ta morale, on va revenir sur ça. Alors, une économie symbolique liée où tu as différents acteurs, et notamment ceux que toi sur lesquels tu enquêtes, qui cherchent en fait à se distinguer en insistant sur des caractéristiques qui leur sont personnelles, sur un rapport spécifique à leur logement, et sur la façon de, pour le, bon, si on utilise par exemple les termes de Michel Lamont, en fait, si tu veux, d'essayer de marquer, en fait, de combiner des marquages de frontières symboliques économiques avec des marquages de frontières symboliques morales, et en fait, qui tiennent en partie aussi un discours sur, en fait, la vraie valeur que, idéalement, de les biens immobiliers ou les loyers devraient avoir, si tu veux. Et donc, qui, en partie, essaye de se distinguer, de se démarquer, de défendre, en quelque sorte, la respectabilité ou la rationalité de leur position, avec une sorte aussi un peu de métadiscours sur la valeur. D'accord ? Le discours sur la valeur. Et donc là, il y a une économie symbolique qui est donc l'expression d'une, également d'une pluralité de points de vue, ou l'expression de tes acteurs, on voit bien dans un espace critique au sein duquel s'exprime une pluralité de points de vue, et tu essayes de décrire, à travers en tout cas une position, les différentes stratégies d'insertion et de discussion au sein de cette économie symbolique. Alors, et l'économie symbolique, encore une fois, c'est souvent l'expression d'une pluralité de points de vue et de positions en compétition les unes avec les autres. Alors, en revanche, je suis un peu, comment dire, pas super convaincu par l'utilisation du terme d'économie morale. Alors, pour moi, si vous voulez, l'économie morale, donc c'est quelque chose qui vient de Thompson, qui est utilisé par Scott, mais parce qu'en fait, dans la façon dont moi je comprends économie morale, si tu veux, c'est que c'est essentiellement un ensemble de représentations, si tu veux, et de valeurs et de rapports en voilà, qui est partagé par un groupe. Donc, en fait, donc c'est pas une économie morale, c'est pas une pluralité de points de vue, c'est au contraire, si tu veux, un peu une idéologie, d'accord. Et donc, en fait, on comprend pas très bien dans le papier comment tu passes, parce que durant les deux premières parties, tu insistes en fait sur le fait que le sentiment de déclassement n'est pas distribué de façon homogène, qu'il se décline de différentes façons, d'accord ? Donc tu insistes sur la diversité au sein même de la catégorie que tu étudies, et ensuite tu passes en fait à cette question d'économie morale, et donc on se dit, mais il vient de nous dire que en fait il y a des rapports différents au sentiment de déclassement, et il nous dit qu'en fait il est résolu par en fait une économie morale qui est partagée par l'ensemble des interviews. Et donc, du coup, on ne comprend plus très bien, si tu veux, comment tu fais ce passage de cette diversité à une seule économie morale. Alors, du coup, peut-être, je ne sais pas, qu'il serait peut-être plus approprié, mais c'est une suggestion, hein, je ne dis pas que j'ai raison, de parler de mode, de forme, de répertoire, de justification, plutôt que d'économie morale. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on aille un peu plus dans le détail pour décider quelle serait la bonne solution. Alors, autrement, bon, voilà, j'ai des petites remarques qui sont beaucoup plus des détails. Alors bon, les annexes, t'as vu, en fait, les tableaux sont pas remplis, en fait.
Oui, on a le temps. Voilà.
Ensuite, peut-être que des gens pourront poser la question de, en fait, quelle version de la typologie des démontrés de Say, en fait, tu as utilisé, parce que, comme tu le sais, en fait, les quartiers moyens mélangés sont susceptibles d'évoluer. Donc, si tu utilises son article de 2003, en fait, qui est sur des données de 99, on peut peut-être te dire, en fait, ils sont peut-être plus moyens mélangés. Donc, peut-être faudra, dans la nouvelle version, utiliser la nouvelle.
Mais c'est pas le cas déjà.
Ouais. Alors, ensuite, à mon avis, il faut que tu définisses plutôt l'acception exacte selon laquelle tu entends le terme classe moyenne. Ça, c'est un détail, on comprend, mais si tu veux, en gros, il faut arriver évidemment à la moitié de l'article pour comprendre. Page 7, j'ai mis un autre papier, donc tu verras, il y a la phrase « En effet, s'il est classe », tu verras, c'est une phrase qui n'est pas hyper claire. Et enfin, dernière remarque, moi je discute quand on discute. Dernière remarque, je suis quand même assez fasciné, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est aussi dans le papier de Lorraine, et vu le thème de la journée, par la façon quand même en fait dont tous ces gens en fait ont une vision, si tu veux, ou en fait vraiment une sorte de carte mentale de la métropole parisienne, pour laquelle l'éloignement, en fait, c'est l'éloignement en termes de distance spatiale et en termes, et en fait c'est la carte de la RATP SNCF. Si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que pour eux, ils disent j'ai son petite couronne, donc forcément, si j'habite plus loin sur le RER, je sais pas quoi, je vais être plus de temps pour y aller. En fait, non, c'est souvent pas vrai. En fait, ils peuvent mettre autant de temps parce que le train va plus vite. Mais simplement, on voit bien qu'ils ont cette sorte de représentation mentale pour laquelle la distance et le temps de transport sont quasiment des équivalents stricts. Alors, on va y revenir en papier de Lorraine. Alors, Rémi, en fait, j'ai deux principales questions, commentaires. Alors, j'ai une première question, quelque chose qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, c'est que, en fait, tu ne nous dis pas quand même énormément de choses sur les professions, les catégories socio-professionnelles, tu vois, des différents types que tu as isolés. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien si ces gens se distinguent quand même ou pas fortement selon des profils socioprofessionnels qui seraient distincts. Donc est-ce que tu pourrais éventuellement nous en dire un peu plus? Et enfin, j'ai une question vraiment là sur la carrière, la question de la carrière résidentielle subjective en quelque sorte. C'est-à-dire, tu nous as dit, enfin tu le dis dans le papier, tu l'as redit aussi à l'oral, que en fait que les propriétaires sont les plus sensibles à la question, à la responsabilité des syndics, d'accord, dans en gros la faillite de leur copropriété. Tu vois, le fait qu'elle ait dû être, que la gestion de la copropriété est menée au relogement. Et donc, je me demandais, est-ce que vraiment cette responsabilité, ils la perçoivent comme quelque chose qui leur est extérieur, ou est-ce qu'il y a un sentiment parfois de responsabilité collective ou de responsabilité personnelle? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'ils se voient, est-ce qu'ils ont été amenés à se voir, éventuellement de façon traumatisante, comme des propriétaires incompétents, en fait, qui n'ont pas su gérer, ou alors soit pas investir, soit pas choisir le bon endroit ou acheter, soit pas n'ont pas su gérer leur copropriété, et du coup à qui on a retiré en quelque sorte leur droit de propriété, parce qu'ils n'ont pas su en fait s'occuper de leur copropriété. Alors de quelle façon est-ce qu'ils ont éventuellement, ils culpabilisent éventuellement Alors, et enfin, Lorraine, alors j'ai une série de commentaires. Plusieurs choses. Alors, je pense en fait que tu pourrais être un peu plus explicite parce que tu désignes exactement par le terme, en fait, quand tu parles de nouvelle classe sociale supérieure ou dominante, en fait, peut-être qu'il faudrait être un peu plus clair hein, sur ce que tu entends par là. Parce qu'en fait, si tu veux, les élites françaises sont au moins pour une partie d'entre elles, tu vois, cosmopolites depuis des siècles, en fait. Alors, évidemment, c'est la part, en fait, des classes supérieures concernées qui ne cesse d'augmenter. C'est ça, ce qui est nouveau. Et les modalités d'internationalisation, tu vois, qui se diversifient en fonction de la fraction des classes supérieures qui est concernée. Donc, c'est plutôt ça, le phénomène. C'est pas nouveau qu'il y ait une partie des classes supérieures, tu vois, qui soit internationale. Et du coup, il y a aussi le fait que, une autre chose ce sur quoi tu insistes, c'est qu'en fait, la dimension multiscalaire, en fait, des ancrages des classes dominantes, c'est aussi quelque chose qui, en fait, qui a été identifié, tu vois, depuis un certain temps, comme l'une des caractéristiques, en fait, dans l'article, dans les plusieurs articles de Monique de Saint-Martin, où elle explique justement comment les élites sont à la fois internationales, certaines élites sont à la fois cosmopolites, ont une stratégie d'ancrage au niveau national par un ensemencement parisien, et en même temps ont en fait un ancrage régional qui peut souvent en province, entre guillemets, qui peut souvent être très fort. Je pense qu'il faudrait peut-être essayer d'insister sur qu'est-ce qui est vraiment nouveau, tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise vraiment qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans la population, dans ce que tu étudies, qu'est-ce qui distingue véritablement ou pas en fait tes d'autres cas déjà étudiés, tu vois, par les pinçons que d'ailleurs tu cites pas en fait dans le papier, ou par un Catherine Wagner, ou par l'équipe justement de Patrick Le Gallet. Je pense qu'il faut que tu essayes en fait de définir en fait cette spécificité. Il manque un peu, tu vois, un argument, un fil argumentaire un peu clair. Alors des suggestions justement pour ça. Alors, une chose qui est quand même vraiment intéressante, dans certains éléments que tu produis, certaines données que tu nous donnes à voir. Alors, moi, je trouve vraiment quand même assez intéressant de remarquer vraiment qu'il s'agit d'une population manifestant, si tu veux, vraiment une hostilité particulière, en fait, à l'égard des transports en commun. D'accord ? C'est-à-dire que l'heure à laquelle ils prennent le RER A de Rueil-Malmaison, il se trouve que c'est des heures dans lesquelles il n'y a quasiment personne, on peut s'asseoir assez facilement, et par ailleurs, si tu prends le RER A, en fait, tôt le matin ou à 9h le soir, tu vas voir qu'il y a plein de gens sur cette ligne-là qui sont avec leurs ordinateurs ou leurs téléphones en train de travailler. Donc, en fait, eux, dans leur bagnole, à faire 1h30 de trajet en conduisant sans pouvoir travailler, en fait, on pourrait leur dire, ils ont beau dire, oui, on est occupé, on est fatigué, mais t'es mal organisé, tu perds 1h30 de travail tous les jours. Donc, en fait, mais on voit bien qu'en même temps, il y a un attachement, si tu veux, visiblement à la voiture, etc. Donc ça, peut-être que ça mériterait d'être un peu plus exploré. Alors ensuite, il y a évidemment le fait que la plupart de tes interviewés sont des interviewés, des femmes, donc, et ce que tu montres bien, et ça, tu réunis bien des choses qui ont déjà été montrées par ailleurs, mais là, on voit bien de façon exemplaire, c'est qu'en fait, à la fois, l'expatriation du mari, d'accord, avec l'épouse qui suit, le fait d'avoir des enfants souvent nombreux et le souhait de vivre en maison individuelle entourée d'un jardin, en fait, sont autant de facteurs qui poussent en fait très fortement à l'inactivité des femmes et à leur mobilité limitée en fait à terme autour du logement. Alors, et après, une fois qu'on a fait ce constat, si tu veux, il y a quand même deux grosses questions qui se posent. C'est qu'en fait, comme tu le dis très bien, toi, tu ne nous présentes que des femmes qui ont ce profil-là, mais en fait, il y a la moitié de ton échantillon, c'est à 50%, qui travaillent à temps plein. Donc en fait, les autres, elles font comment, si tu veux ? Parce que voilà, donc, parce que tu vois, tu nous montres une cohérence pour ce premier groupe, mais quid de l'autre groupe, tu vois ? Et alors, et je pense peut-être qu'il faudrait essayer peut-être de les comparer un peu plus systématiquement. Et ensuite, ce qui serait quand même vraiment intéressant, c'est de comprendre quel est en fait le rapport, si tu veux, de ces deux groupes de femmes à cette pression, en fait, à l'inactivité. Cette pression, si tu veux, structurelle, si tu veux, à l'inactivité. C'est-à-dire parce qu'en fait, moi, si tu veux, j'étais essayé en train de me faire un peu des scénarios en termes d'expérience subjective, et je me disais, alors, peut-être d'un côté qu'il y a une sorte, si tu veux, en gros, qu'il y a une sorte de carrière masculine qui est organisée avec l'expatriation, où en fait, l'expatriation fracasse les possibilités de carrière des femmes, qui, une fois qu'on revient, du coup, à Paris, de toute façon, leur carrière qui est bousillée parce qu'elles ont, en fait, elles ont pas pu travailler à l'étranger, elles ont eu plein d'enfants entre-temps, donc forcément, quand elles reviennent, elles s'imaginent même pas pouvoir recommencer à travailler. Donc, en gros, et donc là, on va s'installer à Rueil. Mais en même temps, dans un autre sens, je me disais, après tout, il s'agit de gens ayant un goût pour, voilà, le fait d'habiter loin, d'avoir plein d'enfants. Tu nous expliques en plus, alors on comprend pas très bien le point, mais que, en fait, pour beaucoup d'entre elles, elles sont de familles catholiques, etc. Donc on se dit peut-être qu'en fait, c'est pas du tout perçu comme quelque chose de subi ou comme une violence. Donc on aimerait bien savoir un peu plus sur, si tu veux, la représentation qu'elles ont en termes de, voilà, le ressenti et la représentation qu'elles ont de ces trajectoires résidentielles, et est-ce qu'elles l'ont vécu comme un renoncement ou pas, tu vois, d'autant plus qu'il y a comme la moitié qui travaille, enfin, il y a une autre moitié qui travaille. Et enfin, toute dernière question, ah oui, alors voilà, alors là, l'exemple, si tu veux, de la famille Guillet que tu as cité dans le papier, que tu nous citais, alors là c'est une remarque un peu, tu sais, à la Mario Small sur l'utilisation de cas, comment dire, moyen ou au contraire extrême et idéal typique dans une démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la famille Guillet, ça illustre en fait cet enracinement sur quatre générations, ils ont construit une partie de la ville et tout, mais en même temps, on se dit, j'imagine qu'ils sont un peu atypiques quand même. Ou alors on se pose la question, est-ce qu'ils sont, si tu veux, est-ce que tu les cites longuement parce que c'est une sorte d'exemple, tu vois, poussé à l'extrême de cette logique-là, mais dans ce cas, je pense qu'il faut le dire, parce qu'on ne comprend pas bien si c'est ça, ou si c'est en fait un cas moyen, tu vois, exemplaire, et il y en a plusieurs autres dans ton échantillon. Donc peut-être qu'il faut là clarifier un peu l'utilisation de cet exemple dans l'économie de la démonstration. Excusez-moi, j'ai été trop long.
Merci Bruno pour tes remarques, commentaires, questions qui sont utiles et ultra pertinentes. Alors, j'avoue, non, je vais commencer par là. Alors, sur les petits points plus de détails que tu as soulignés, effectivement, la typologie d'Edmond Pretzel que j'utilise, c'est 90, 99, 2008 et en partie 2013 quand il veut bien les montrer. Et en fait, la caractéristique des quartiers que j'ai utilisé, c'est justement des quartiers qui non seulement sont moyens mélangés en 2008 et qui le sont depuis 90 pour la plupart d'entre eux. Okay. Donc c'est aussi cette dimension de stabilité qui est importante. Sur ce côté de carte mentale, en fait, ça me fait penser à un point que j'ai souligné très rapidement à la présentation, qui était celui des avantages monétaires et spatiaux associés à la location d'un logement social, permettant justement de se maintenir en proche banlieue. Et là, j'insiste que je pense que ce résultat, cette insistance que moi j'ai vue dans mes entretiens et dans mon enquête de terrain, est très liée, est endogène en fait, à la localisation de mes terrains d'enquête qui sont dans les Hauts-de-Seine. C'est-à-dire que si j'étais en Seine-Saint-Denis, pas partout en Seine-Saint-Denis, je ne veux pas avoir une vision trop homogénéisante, mais si j'étais en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne, je pense que je n'aurais pas du tout les mêmes résultats. Et enfin, pour passer la parole très vite, sur l'économie morale, vraiment, j'avoue, maîtriser très peu, en fait. Et donc, je suis ravi qu'on en discute.
Merci. Merci pour ces questions. Je vais être très rapide aussi. Par rapport à ce qui différencie ces habitants, alors effectivement, la plupart occupent des emplois peu qualifiés. Maintenant, ce qui les différencie, c'est le type de contrat, la stabilité de l'emploi du contrat. Est-ce qu'il y a eu des interruptions dans leur trajectoire professionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas d'interruption? Est-ce qu'ils sont à temps partiel? Est-ce qu'ils sont à temps plein, etc. C'est surtout ça qui les différencie. Maintenant, en fait, dans la thèse, j'avais illustré chacun de ces types par un profil type d'un habitant revenant sur sa trajectoire, etc. Et ta remarque me fait dire que si je retravaille cette partie, il faut peut-être remettre les profils types qui permettent d'en savoir un peu plus et d'être vraiment d'apposer un cas à...
En termes de PCS, peut-être, tu vois aussi, au-delà oui. De la nature du contrat.
Oui, oui. Et après, par rapport à la responsabilité de la dégradation, ça renvoie à la question... En fait, ces propriétaires sont désignés par l'action publique comme responsables de la dégradation, puisque finalement, le fait de les reloger dans le parc social les rend inaptes à avoir été propriétaires. Et justement, le déclassement est d'autant plus fort que c'est pour certains propriétaires, ceux qui se sont investis dans le conseil syndical, etc., ce jugement est d'autant plus injuste qu'ils estiment connaître les raisons de la dégradation et qu'ils ne sont pas forcément liés à leurs caractéristiques, mais liés à des malfaçons de construction, à des défauts de gestion, etc. Donc ça renvoie à un jugement qui leur est attribué. Voilà.
Merci Bruno pour ta question. Moi aussi, je vais revenir sur deux points, peut-être l'hostilité vis-à-vis du RERA. Je suis tout à fait d'accord avec toi et pour le dire de manière très rapide.
C'est une question un peu provocatrice.
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est comme ça que j'analyse dans le papier et je pense qu'en effet, le pendant du repli sur le foyer, c'est aussi un éloignement vis-à-vis de l'État et les services publics. Et d'ailleurs, du coup, dans la thèse, je l'analyse au prisme de deux objets que sont la sécurité et l'école. Et du coup, les transports, en fait, j'ai moins de choses dessus, mais je pourrais essayer de voir quand même si je peux pas. En effet, le traiter plus largement. En tout cas, c'est assez massif dans mon groupe d'enquêté. Et alors, pour les quid de l'autre groupe des femmes, celles qui sont donc actives, en fait, il y a une raison structurelle, une raison pratique pour laquelle elles sont peu présentes ici. La raison structurelle, c'est qu'en fait, j'ai peu rencontré de femmes actives. J'imagine que, la vraie raison de ça, c'est parce qu'en fait, justement, elles sont en train de combiner vie professionnelle et vie familiale et que c'est très dur pour elles. Et donc en fait, quand je dis bien que c'est un peu moins de la moitié des femmes, des ménages enquêtés qui étaient actives, et en fait, parmi elles, j'ai rencontré surtout leur mari, du coup, et aussi parmi elles, en fait, beaucoup sont inactives au moment où je les rencontre. Donc en fait, elles sont retraitées maintenant. Et elles étaient actives, donc je ne peux pas les compter dans les femmes au foyer. Voilà, donc en fait, mais en réalité, j'ai rencontré très peu de sur les 60, enfin voilà, j'ai rencontré très peu de femmes actives. Et la raison pratique, c'est aussi que j'ai fait une communication il y a quelques semaines sur les femmes au foyer. Donc, du coup, j'ai retranscrit en priorité cet entretien-là. Et comme je suis encore en plein travail de gestion des données, voilà. Et aussi, du coup, c'est dans cette com que je parlais beaucoup plus de est-ce qu'elles sont déçues ou pas de cette trajectoire. Et c'était pas trop l'objet aujourd'hui par rapport à section de mobilité. Voilà, merci.